Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Plusieurs familles voisines de l'aéroport de Murongo à Bunia, exposées à des risques d'accidents d'avion, disent-elles. Cet aéroport est en pleine réhabilitation et ces familles disent attendre depuis plusieurs mois les indemnisations promises sans succès. Elles demandent l'implication du gouvernement congolais. Baisse du taux des dollars actuellement à Kinshasa. Comment expliquer cette situation? Ce n'est pas un hasard, mais plutôt le résultat des efforts concertés entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Explication du ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Et puis, journée mondiale du gorille, c'était hier 24 septembre. À cette occasion, le directeur des programmes du Fonds Fossi en RDC appelle à une mobilisation en faveur de la conservation de ces grands singes. Urbain Gobobo est l'invité de ce journal. Madame, messieurs, bonjour. Commençons par l'Ituri. Plusieurs familles vivant autour de l'aéroport de Murongo à Bunia affirment être exposées à des risques d'accidents d'avion. Cet aéroport est en pleine modernisation. Dans une déclaration faite à la presse mercredi, elles disent attendre depuis plusieurs mois les indemnisations promises sans succès. Ces habitants demandent l'implication du gouvernement provincial afin d'être relocalisés vers des zones jugées moins dangereuses. Le point avec Jean-Claude Leclerc.
Les maisons et parcelles concernées se trouvent dans la zone prévue pour l'élargissement de l'aéroport. Selon le propriétaire, toutes les formalités de départ ont été remplies. Ce qui bloque, explique-t-il, c'est le paiement des indemnisations censées leur permettre d'acquérir de nouvelles parcelles dans des endroits plus sûrs. Pascal Balemouaki, leur porte-parole, alerte sur les risques auxquels ils restent exposés.
Ce retard expose nos familles composées essentiellement de femmes, des enfants, des vieillards et des déplacés à des dangers énormes. Il y a à peine un mois, a raté son atterrissage, frôlant un drame quelques mètres de toiture.
De son côté, la société Mogabaon, qui exécute les travaux, précise que la responsabilité du paiement revient à l'État congolais. Didier Likele, chargé de communication, s'explique.
Nous, comme société, nous ne sommes que des exécutants du projet. Nous pensons que la population est dans ses droits. Nous prions même que le maître d'ouvrage, qui est l'État congolais, puisse résoudre ce problème-là rapidement, afin de permettre à la société de réaliser et de finir les travaux selon les calendriers prédéfinis par les contrats.
Aucune réaction pour l'instant du côté gouvernement. Pour rappel, les deux premiers groupes de familles avaient déjà quitté les lieux après avoir reçu leur indemnisation. Celles qui restent espèrent elles aussi bénéficier du même traitement. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Parlons des aéroports. Ici à Kinshasa, deux coupures d'électricité en l'espace de 2 semaines à l'aéroport international de Njili relancent le débat sur l'accès à l'énergie électrique dans les édifices publics en République démocratique du Congo. Pour faire face à cette situation, le coordonnateur énergie au sein de l'ONG Ressources Matters, Christian Mbenga, plaide pour la mise en place de systèmes hybrides moins polluants combinant énergie solaire, batterie de stockage et générateur d'appoint. Christian Mbenga explique au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Je pense que ce qui se passe à l'aéroport d'Njili, ce n'est qu'une partie de l'iceberg sur le vrai problème que nous avons de l'accès à l'électricité en RDC. Cela s'est passé dans l'espace de 2 semaines où nous avons d'abord vu la nuit du 10 au 11, le président de la République a fait plus de 40 minutes dans l'espace aérien en attendre qu'il y ait reprise du courant électrique pour atterrir. Et pas plus tard que le 22, il y a eu encore coupure à 5h50 à l'aéroport international d'Njili. Nous, la solution que nous proposons, il y a de cela depuis le début de cette année, ressourcement thèse, que je coordonne les activités dans le volet énergie, nous avons lancé un projet sur l'autonomisation des bâtiments publics. Nous avions déjà compris l'importance de plus en plus, si vous constatez dans la ville de Kinshasa, il y a eu un problème de boom immobilier. Donc il y a des bâtiments, il y a des immeubles qui naissent de partout, alors que l'offre reste identique. Donc la demande croise. Alors face à cette situation, la solution c'est celle-là de pouvoir rendre autonome certains bâtiments. Donc il faudra mettre en place des solutions hybrides qui combinent les mini-réseaux solaires, des groupes de mini-réseaux solaires accompagnés des batteries de stockage et en dernière position les groupes électrogènes.
Les autorités du Kasaï central lancent un SOS pour la construction du pont Lueta, un ouvrage qui relie la localité de Samwanda à la cité de Luisa. L'ancien pont flottant, devenu vétuste, a été fermé à la traversée par l'Office des routes provinciales, mais le problème reste entier. L'Office des routes du Kasaï central affirme ne pas disposer des moyens nécessaires pour construire un nouveau pont métallique. Cependant, le directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï central, Juri Ngandu, appelle la direction générale de l'Office des routes à intervenir d'urgence. La construction de ce pont permettrait de désenclaver la région et faciliter le transport des passagers et des marchandises entre Kalambambouji, Mweneditu et Luisa, dit-il. Juri Ngandu est au micro de Richard Junior Kamunga.
Là, je parle plus précisément du pont Lueta qui va nous créer des problèmes. Le pont est déjà cassé et je demande aux autorités de l'Office de route au niveau national, de Foner et le ministre des ITPR de s'impliquer pour que la solution soit trouvée en urgence. Il n'est point besoin ici de démontrer l'importance de cette route que nous appelons la route du salut. Mais lorsque le pont est cassé, il y a la population riveraine qui commence à transporter les choses à même les épaules pour le faire traverser de l'autre côté de la rive. Donc là, ça pose un peu problème et nous demandons que l'Office des routes prenne la chose en main. La direction provinciale de l'Office des routes manque de tout. Nous n'avons pas d'équipement. Nous avons fait des devis. On a déposé sur la table du directeur général, mais aussi sur la table DG de Foner, pour qu'on puisse ne fût-ce qu'envoyer l'argent qui a été demandé pour la réparation des équipements et aussi terminer le pont qui a été déjà entamé. Mais là, nous sommes abandonnés à notre triste sort.
Autre nouvelle, comment expliquer l'appréciation du franc congolais face au dollar constatée ces derniers jours sur le marché de change à Kinshasa, d'après le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. C'est le résultat des efforts concertés du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Il l'a dit mardi à l'issue de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre. On écoute le ministre Daniel Moukoko Samba dans cet extrait proposé par Poli Mouzalia.
Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement.
Rappelons que la semaine passée, un dollar valait près de 2800 francs congolais sur le marché de change à Kinshasa. Aujourd'hui, il oscille entre 2650 et 2700 francs congolais. Coopération République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Le ministre du Commerce extérieur a signé 5 mémorandums d'entente avec les entreprises américaines et celles de la diaspora congolaise. Ces dernières sont regroupées au sein du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, œuvrant dans plusieurs domaines dont la coopération commerciale aéronautique, l'inclusion financière, le gaz, le business consulting et le business éducation. C'est en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Julien Paluku a rassuré ses entreprises de l'amélioration du climat des affaires en RDC et de l'accompagnement de l'État congolais, mais aussi des différentes facilités qu'offre le Code des investissements et le régime des zones économiques spéciales. On écoute le ministre Julien Paluku du Commerce extérieur dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinge.
Vous savez que les États-Unis avec l'Union européenne pilotent un vaste projet du côté de l'Obito, mais à côté de ce côté de l'Obito, il n'y a pas que des infrastructures. Il y a beaucoup d'autres projets qui doivent accompagner ces corridors, liés notamment à la digitalisation, liés aux infrastructures autres que les routes et les chemins de fer, liés par exemple à l'aviation, liés à la formation de l'élite congolaise, à la formation professionnelle, liés à l'organisation des masses laborieuses à travers des coopératives. Nous avons interagi avec des investisseurs américains, aussi bien d'origine congolaise, congolaises et ceux d'origine américaine qui ont tenu à échanger avec nous sur un certain nombre de préoccupations. Et nous avons abouti à la signature des 5 mémorandums d'attente qui vont définir la feuille de route qui nous mènera d'ici peu vers l'émergence de la RDC. Et donc, nous saluons cette promptitude avec laquelle les émissaires américains sont intéressés par la RDC. Vous savez que nous sommes dans un monde de transition énergétique où la RDC est au cœur des minéraux stratégiques qui intéressent les États-Unis.
Direction le Nord Kivu. Vive tension hier entre les cultivateurs de Mayangos et les éco-gardes de l'ICCN à Tingi Tingi, dans le village de Bapakombe Bakondo, territoire de Beni. En cause, la destruction par les gardes du parc de plus de 20 hectares de produits agricoles de la population. Pris de colère, les cultivateurs ont barricadé la route à Nyaleke, paralysant ainsi la circulation entre Beni et Kasindi durant une bonne partie de la journée. Le vice-gouverneur de province, qui dit regretter cette situation, appelle les cultivateurs au calme et promet l'accompagnement des autorités afin de trouver une solution à ce problème. Le commissaire divisionnaire Jean-Luc Karawa revient sur la situation d'hier. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Ce matin, l'ordre public a été troublé sur le tronçon Beni-Kasindi, ici à Nyaleke, parce que nos amis de ICCN sont venus pratiquement faire une destruction méchante sur les champs de la population. Nous constatons que vraiment il y a une destruction méchante pendant que nous sommes dans un processus de délimitation. D'ailleurs, il y a une commission qui a été mise en place par le gouverneur de province. Mais voilà, nous sommes surpris quand même que tout n'a pas été respecté. Ils sont allés vite en besogne et c'est ce que nous regrettons. D'urgence, dès demain déjà, il y a une réunion de concertation avec toutes les parties afin d'apaiser la situation et surtout que la population se sente aussi en sécurité parce que nous sommes là pour cette population. Tout ce que je peux dire à la population, c'est que d'ailleurs l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec eux compte tenu de cette situation qui vient de se passer et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre.
Dans l'actualité aussi, évaluer la mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, la question a fait l'objet d'un atelier régional qui réunit du 23 au 25 septembre en cours à Kinshasa les plateformes de la société civile du Cameroun, du Tchad et de la RDC. Il s'agit selon les organisateurs d'un suivi citoyen pour la matérialisation de cette décennie qui se clôture en 2028. Norbert Kimvula, directeur national de l'Institut africain pour le développement économique et social, INADE, insiste sur la valorisation de l'agriculture familiale. Il est au micro de Stanislas Diomi.
Quand il y a eu déclaration officielle de cette décennie, il a été demandé à chaque pays d'élaborer un plan d'action national. Nous allons faire un bilan de ce plan d'action, comment il est mis en œuvre par les différents pays, parce que c'est un atelier régional qui regroupe 3 pays. Le Cameroun, le Tchad et la République démocratique du Congo. Pour voir comment ça se met en œuvre et quelles sont les stratégies que nous pouvons tirer pour les jours à venir. Parce que la décennie va se terminer en 2028. Bon, en fait, l'agriculture familiale, c'est quoi? C'est l'agriculture qui est pratiquée par les petits paysans. Et c'est celle qui nous nourrit ici pratiquement dans notre pays. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'agro-business. Là, ce sont des investissements et des grands moyens qui sont mis en œuvre pour produire. Et à un certain moment, on arrive à exproprier les terres des petits paysans pour des actions de grande envergure, des investissements. Mais pour nous, nous trouvons qu'il est mieux de soutenir la grande majorité.
Promouvoir l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes, des personnes en situation de handicap et des communautés marginalisées, c'est l'objectif du déjeuner d'affaires organisé mardi à Kinshasa par l'ONG CUSO International avec le soutien de l'Agence suédoise de coopération et d'affaires mondiales dans le cadre du projet Talents Pluriels. Cette rencontre a permis de mettre en lumière des talents cachés, comme nous le dit ici Enoch Katumbi.
Près de 170 jeunes et une centaine d'invités ont préparé à cette cérémonie marquante. À l'occasion, 160 certificats de formation en entrepreneuriat ont été remis et 22 500 dollars ont été alloués pour soutenir 24 projets portés par des jeunes congolais. Pour le représentant de l'ambassade du Canada, partenaire de ce projet, ces résultats vont bien au-delà des chiffres.
Ces résultats ne sont pas des chiffres, mais ce sont des trajectoires de vie transformées, des barrières sociales brisées, des talents révélés, mais bien plus. Ces résultats traduisent une approche intégrée qui combine inclusion sociale, autonomisation économique des femmes et lutte contre le chômage chez les jeunes.
Une satisfaction également exprimée par Richine Masengo, représentante de QSO International en RDC.
Très très satisfaite parce que nous nous sommes donné comme objectif de pouvoir former 4480 jeunes. Mais nous avons dépassé parce que nous avons formé plus de 6000 jeunes.
Les bénéficiaires, eux, n'ont pas caché leur gratitude.
C'est un grand honneur au nom de mes collègues entrepreneurs et bénéficiaires du projet Talent Pluriel. Enfin, de vous adresser nos vifs remerciements. Merci d'avoir cru en nous et merci de nous avoir tenu la main pour que nous devenions, en notre tour, des acteurs de changement.
La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive.
Actualité internationale. L'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, et 11 autres prévenus connaîtront ce jeudi 25 septembre le jugement du tribunal correctionnel de Paris. C'est dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy risque la plus lourde sanction. En avril dernier, à l'issue des 3 mois d'audience, le parquet avait requis 7 ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien locataire de l'Élysée, soit la peine la plus lourde demandée par les magistrats financiers. Pour les 11 autres prévenus, 1 à 6 ans de prison avaient été requis.
L'invité.
Le monde a célébré hier 24 septembre la journée mondiale du gorille au nord et au sud Kivu. Les parcs nationaux et réserves des communautés locales hébergent la seule population des gorilles des Groers au monde, ainsi qu'une grande population des gorilles de montagne. En raison des conflits et de l'insécurité qui règne dans la région, ces aires protégées ainsi que ces deux sous-espèces de gorilles sont de plus en plus menacées. Pour en parler, nous recevons le directeur des programmes du Fonds Fossé en RDC, Urbain Ngobobo, s'entretient avec Bernardin Nyangui.
Monsieur Urbain Ngobobo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de gorille. Quelle importance revêt pour vous cette journée?
Cette journée revêt une importance très capitale parce que c'est la commémoration des gorilles. Et les gorilles d'abord, qui est notre proche cousin, que nous devons toujours essayer de valoriser de temps en temps. C'est pourquoi il lui a été dédié cette journée. Et parce que les gorilles jouent un grand rôle dans notre vie, c'est pour nous un moment de réflexion, c'est pour nous un moment de se dire est-ce que réellement nous sommes en train de remplir notre mission qui a été donnée par le bon Dieu, de bien gérer et la biodiversité qui a été mise à notre disposition, quel est l'état des gorilles. Bien sûr, il y a des avancées ça et là, mais du côté de Congo, et le tableau reste toujours sombre.
Et comment se présente effectivement ce tableau?
Il y a beaucoup d'inquiétudes, du fait que, comme vous le savez, nous avons les gorilles des montagnes, nous avons les gorilles des Grauers. Il était aussi rapporté qu'il existerait des gorilles des plaines de l'Ouest dans les parties Congo central, mais il faut encore des inventaires pour essayer un peu de confirmer. Mais s'il faut parler aujourd'hui, les gorilles des montagnes, on les retrouve ici dans le parc national de Virunga. Et vous savez, depuis un temps, cette zone est le théâtre des affrontements, des guerres. À un certain moment même, les pisteurs ne pouvaient pas aller remplir leur travail pour garantir la sécurité et la protection de cette sous-espèce. Pire encore, c'est du côté des gorilles des Grauers, qui est endémique en République démocratique du Congo. On ne peut que les retrouver en République démocratique du Congo in situ. Et c'est dans sa partie est qui accroît aussi sa vulnérabilité. Parce que pour les autres, quand tu as un problème d'insécurité dans un pays, ils peuvent traverser et aller trouver refuge dans un autre. Ce qui est contraire pour les gorilles des Grauers, chez nous. Et malheureusement, leur zone de distribution, c'est la zone qui est toujours théâtre des affrontements. Parce que cette zone part des forêts du Tombo et ça va jusqu'à Tchabirimo. Mais déjà là, comme vous le savez, cette partie vit dans l'incertitude totale. Dans les Kaouzi-Biega, où on retrouve le peu des gorilles, des Grauers habitués, où on organisait le tourisme, le Kaouzi est en train de connaître un sérieux problème de déforestation. La forêt est occupée parc des hommes que l'on ne sait pas bien identifier. Les gardes ne sont pas à mesure de faire leur travail. Et donc, cette espèce est dans une situation critique. C'est l'endroit, par exemple, dans l'Nkuba Conservation Area, qui est une zone de plus de 2400 km², où les gardes suivent 5 groupes de gorilles de Grauer. Récemment, Igalika, le centre, est tombé entre les mains de la rébellion. Et bien, cela a poussé que les communautés ont quitté leur village et tout au long des routes principales pour aller se réfugier dans les forêts, et spécialement dans le Kuban Kosvenger Area. Mais c'est aussi une opportunité pour féliciter et remercier cette communauté. Et ça nous donne pour nous un lueur d'espoir. Parce que quand la communauté s'est déplacée, la jeunesse de cette communauté d'Nkuba et des villages environnants, et se sont érigés vraiment en bons protecteurs. Ils sont restés au village pour protéger les installations de la Diane Fossé Gorilla Fund. Et c'est là qu'ils sont partis dans la forêt, spécialement composée de vieillards, des enfants et des femmes. Ils sont partis s'installer dans des zones qui ne sont pas des zones de pistage de gorilles, parce qu'ils le savent, parce que ils font des patrouilles communautaires, ils savent les zones névralgiques des gorilles.
À combien estimez-vous actuellement la population ou l'effectif de la population des deux sous-espèces de gorilles, le gorille de montagne et aussi le gorille de Grauer?
On devrait aussi procéder aux inventaires pour mettre à jour les données existantes. Mais pour les gorilles de Grauer, on ne peut que se référer d'abord aux données et les inventaires qui ont eu lieu en 2015. C'était estimé encore à 2800, mais nous pensons que le nombre a augmenté. Et du côté de Virunga, là, ce qui est très important, ce qui est bon, malgré la guerre, c'est la seule sous-espèce où le nombre continue à augmenter. Et là, c'est ce qui est intéressant pour nous.
Monsieur Urbain Gobobo, je rappelle que vous êtes le directeur pays de Diane Fossé Gorilla Fund International. Merci.
Oui, c'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, pour votre intérêt envers les gorilles.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.